Radio Kapi.
À la une, tête à tête ce jeudi entre le cardinal Fridolin Ambongo et le premier ministre Sama Lukonde à Kinshasa, il était question pour Fridolin Ambongo de remettre son rapport sur la situation sécuritaire de Kwamout, cela après sa mission pastorale dans le Grand Bandundu. Attaque d'un convoi de véhicules escortés par les phares des CIR par les EDF à Kabrik sur la route Komanda-Luna à Nituri. Bilan provisoire, un mort, des véhicules avec marchandises incendiées et plusieurs personnes prises en otage par les EDF. L'ONG CRDH interpelle les services de sécurité. Et puis, l'invité de ce soir, Justin Bendessane, coordonnateur adjoint de la coordination pour le changement de mentalité. Il appelle la population à s'approprier le programme de développement de 145 territoires en vue de réduire notamment la pauvreté. Appel lancé mardi à Kisangani lors d'une conférence de presse. Madame, Messieurs, bonsoir. Conflit Teke et Aka. Le cardinal Fridolin Ambongo a remis ce jeudi au Premier ministre la synthèse de son rapport sur la situation sécuritaire de Kwamout dans le Maïndombe, ce après sa mission pastorale effectuée dans le Grand Bandundu. Cette remise est intervenue au cours d'une audience lui accordée à la primature à Kinshasa, tout en réservant jusqu'ici la primeur du contenu du dit rapport au chef du gouvernement. Le cardinal Fridolin Ambongo dit avoir enregistré des observations qu'il a jugées bon de partager avec Jean-Michel Sama Lukonde pour des solutions appropriées. Le prélat catholique a rappelé que cette partie du pays se trouve dans son archidiocèse. On l'écoute dans ses propos recueillis par Grâce Amzati.
Vous savez tout ce qui se passe actuellement dans les territoires de Kwamout. Et moi, en tant que pasteur propre de cet archidiocèse de Kinshasa et Kwamout, une bonne partie se trouve dans mon archidiocèse. J'avais fait une visite pastorale la première fois le long du fleuve jusqu'à Kwamout Cité. J'ai continué ma visite jusqu'à Massiakwa, sur la rivière Kwa. De retour ici, j'avais estimé que ma visite devrait être complétée par la partie terre. Et j'avais pris l'avion la semaine passée jusqu'à la ville de Bandundu. Et de Bandundu, j'avais fait la route RN17, Bandundu, Massiambio, jusqu'à Mongata, sur la route principale. J'ai eu à rencontrer nos frères et sœurs, ils sont dans cette partie, et j'ai eu des observations qui me paraissaient importantes, et avant de faire quoi que ce soit, j'avais estimé qu'il était tout à fait légitime que j'échange avec le Premier ministre là-dessus.
Par ailleurs, les déplacés de Kwamout accueillis dans la province du Kwilu, du Kwango et dans d'autres coins de la province de Maïndombe et qui vivent dans des conditions difficiles vont enfin bénéficier de l'appui humanitaire du gouvernement central. Cela grâce à l'arrivée mercredi à Bandunduville d'une délégation d'au moins 5 ministres du gouvernement central, en majorité fils du Grand Bandundu. Didier Mazenga, chef de la délégation, indique que cette mission humanitaire est effectuée sur instruction du président Félix-Antoine Tshisekedi. Irène Mboma nous en dit plus.
Parmi les membres du gouvernement central qui ont effectué ce déplacement de Bandundu dans l'après-midi de mercredi, figure le ministre de l'intégration régionale, celui des affaires sociales et actions humanitaires, le ministre du numérique, la ministre près le président de la République, ainsi que la vice-ministre de la Défense. Ils sont accompagnés de la gouverneure de la province du Maïndombe et de deux députés nationaux. C'est confiant à la presse dès leur descente de l'avion, Didier Mazenga, ministre national de l'intégration régionale, et chef de la délégation a déclaré qu'ils sont venus pour apporter l'assistance du gouvernement central aux déplacés de Kwamout se trouvant dans cette ville.
Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, a donné des instructions claires à son gouvernement, notamment au Premier ministre, chef du gouvernement, pour que nous puissions venir ici à Bandundu pour appuyer, assister nos frères et sœurs déplacés maintenant sinistrés de la guerre d'agression de Kwamout.
Notez qu'après Bandundu, la délégation gouvernementale va se rendre partout où se trouvent ces déplacés pour les assister, notamment au territoire de Bagata dans le Kwilu, dans la province du Kwango et également au Maïndombe, a indiqué Didier Mazenga. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
Entre-temps, la société civile de la ville de Kikwit et celle de la ville de Bandundu haussent le ton pour décrier la situation sécuritaire déplorable ces derniers temps dans l'espace Grand Bandundu, situation relative à la crise Tekeyaka qui s'étend au Kwilu et au Kwango. Dans une déclaration ce jeudi devant la presse, cette structure citoyenne fait plusieurs recommandations, notamment au gouvernement congolais, aux services judiciaires et aux communautés du Grand Bandundu afin de mettre fin à cette crise. Cette déclaration est lue ici par Laurent Bouenia, président de la société civile de Kikwit, propos recueillis par Irène Boma.
Les sociétés civiles de Kikwit et de Bandundu, au regard de la situation sécuritaire qui prévaut encore dans le Grand Bandundu, déclarent ce qui suit. La non-prise en compte de la fameuse crise Yakateke à temps est à la base de la crise grandissante qui s'étend de Kwamutu vers les provinces. La tuerie avec plaisir de voir le sang n'est pas la culture du Grand Bandundu. Que la main noire à la base de cette crise soit identifiée et mise hors d'état de nuire. Que tout celui arrêté comme auteur ou co-auteur de tuerie soit jugé devant son juge naturel dans un procès public afin de permettre à connaître les tenants et les aboutissants de cette étrange crise. Que les groupements et les tribus du Grand Bandundu, réputés jadis paisibles, ne se laissent pas manipuler pour s'opposer entre eux. Que l'État réglemente les redevances coutumières pour que ça ne serve plus de prétexte.
Nord Kivu, un peu plus de 5000 ménages des retournés du groupement Kibumba reçoivent depuis le début de cette semaine dans le territoire de Nyiragongo une assistance humanitaire. C'est à travers une foire organisée sur le terrain de l'Institut Kibumba par l'organisation internationale Mercy Corps. Les ménages reçoivent des coupons à valeur monétaire de $65, $120 et $190 selon leur taille. Une assistance saluée tant par les retournés eux-mêmes que par les opérateurs économiques locaux. Rosalie Zawadi a assisté à cette foire et nous propose ce reportage.
Sur un stand des vivres, Madame Nirandegea Christine veut savoir ce qu'elle peut prendre avec les coupons monétaires qui lui restent. Ayant une famille de 6 membres, elle a reçu des coupons monétaires d'une valeur de $120. Elle exprime sa joie pour tout ce qu'elle vient de se procurer.
Je viens d'acheter 2 sacs de riz, des haricots, du poisson salé et du sel. Je vais acheter d'autres effets pour la maison. Je vais prendre un matelas pour les enfants, un pagne pour moi et une casserole. Les enfants dorment dans de mauvaises conditions. Aujourd'hui, ils auront un matelas. Je suis contente et je dis merci.
Comme à cette mère des familles, ils sont au total 5071 ménages des retournés dans les groupements Kibumba. Ils ont fui les combats entre les FRDC et les rebelles du M23 dans les territoires de Nyiragongo au mois de mai dernier. Ils saluent tous la tenue de cette foire qui profite non seulement aux ménages des retournés, mais aussi aux opérateurs économiques de ces territoires. Signalons que Mercy Corps réalise ses projets grâce à l'appui du gouvernement britannique, les peuples américains et la Commission européenne. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
En mission de suivi des activités menées par l'UNICEF au Maniema, le coordonnateur de l'UNICEF pour l'Est de la RDC déplore le fait que l'investissement dans le développement reste limité au Maniema. Jean-Ludovic Métainier appelle les autorités et donateurs à accroître les moyens afin d'assurer un meilleur encadrement des enfants de cette province. Jean-Ludovic Métainier explique au micro de Florence Kiza.
L'investissement dans le développement de la province du Maniema reste très limité. Avec nos moyens limités, on contribue pour essayer de renforcer l'assistance aux enfants de la province du Maniema. Mais bien entendu, les besoins sont beaucoup plus importants que notre capacité. Et donc, ce que je pourrais simplement dire, c'est demander au gouvernement, demander aux donateurs de continuer et d'accroître les moyens qui sont mis à disposition pour assurer une meilleure éducation, un meilleur encadrement des enfants ici dans la province du Maniema. On va, dans la mesure du possible, essayer d'accroître les interventions qui sont menées ici dans la province du Maniema. On a quand même un investissement conséquent pour faire que la vaccination de routine redémarre et puisse s'accélérer pour d'abord récupérer les enfants qui n'ont pas été vaccinés à cause de la période qu'on a connue avec le Covid. Et comme je parle pas uniquement des enfants, parce qu'on est aussi sur la vaccination Covid. Le Covid continue de circuler dans la République. Il est important que la population se fasse vacciner.
Je vous le disais en titre, en Ituri, un convoi de véhicules escorté par les FARDC a été attaqué mercredi par des rebelles ADF dans le village de Kabrik, sur la route Komanda Luna, dans le territoire d'Irumu. Selon des sources locales, le bilan provisoire fait état d'une personne tuée et plusieurs autres prises en otage par ces rebelles qui ont par ailleurs incendié des véhicules contenant des marchandises. L'Organisation de défense des droits de l'homme, CRDH, alerte les services de sécurité sur la présence des nouveaux bastions de l'ennemi qui proviendrait du territoire de Beni au Nord Kivu. Le point avec Ezekiel Muzalia.
Ce convoi de plus de 50 véhicules civils, dont une vingtaine de camions transportant des marchandises et des voitures de transport en commun avec des centaines de passagers à bord, a quitté Komanda pour le Nord Kivu. Chemin faisant, un groupe de rebelles des ADF a ouvert le feu vers 14h vers le village de Kabrik, à environ 50 km de Komanda Centre. Selon des sources concordantes, le chauffeur d'un véhicule qui transportait des poissons salés en provenance de Kasenyi a été blessé par balle et est mort sur les champs. Ces hommes armés ont ensuite incendié deux véhicules. Certains passagers, dont le nombre n'est pas encore déterminé, ont été pris en otage par ces rebelles qui les ont acheminés dans la forêt. L'intervention des FARDC qui escortaient ces véhicules a permis de limiter les dégâts, précise les mêmes sources. L'ONG Convention pour le respect des droits de l'homme, CRDH, condamne cette attaque et demande à l'armée de poursuivre l'ennemi qui cherche à occuper ses anciens bastions à Madina, à Otomaber et à Banda Vilemba sur la route nationale numéro 4. Nous n'avons pas encore la réaction de l'administrateur de ces territoires à ces sujets. Bounia, Ezekiel Muzalia, Radio Okapi.
Et puis, la coordonnatrice nationale de l'Association des femmes pour le développement communautaire, AFEMDECO en sigle, tire la sonnette d'alarme. Plusieurs enfants sortis des sites miniers dans le territoire de Kipushi, dans le Haut-Katanga, avec le concours des bailleurs de fonds et intégrés dans les écoles publiques de la place, sont retournés dans les sites miniers. Et pour cause, leurs parents ne sont pas en mesure de leur assurer une prise en charge alimentaire. Nénette Mwangé demande au gouvernement et aux bienfaiteurs de voler au secours de ces enfants qui mettent leur vie en danger en compromettant leur avenir dans les carrières minières, car leur place se trouve à l'école. Nénette Mwangé, responsable de l'ONG AFEMDECO, explique la situation au micro de Jean Gandou.
À son temps, nous avons identifié 2834 enfants qui travaillent dans 13 carrières artisanales dans le territoire de Kipushi. Et nous avons réussi de faire sortir 500 enfants que nous avons scolarisés l'année 2021 dans des écoles de l'État. Ce sont des enfants de 7 ans à 14 ans. Les autres qui avaient 16 ans, 17 ans, ce sont les 15 qu'on a amenés dans l'apprentissage des métiers. Cette année, il n'y a que 213 qui sont rentrés dans des écoles. Le reste des enfants sont toujours dans la cité et les autres sont déjà rentrés dans des carrières. Alors nous demandons maintenant aux bailleurs de fonds de nous venir en aide pour que nous puissions continuer avec la prise en charge éducationnelle de ces enfants qui ont toujours tendance de rentrer dans des carrières. La semaine passée, je suis parti voir les 213 qui sont maintenant actifs. C'est déjà 180. La plainte en est que lorsque les enfants rentrent à la maison, il n'y a pas à manger. Alors ils ont tendance de rentrer encore dans des carrières puisque là, ils trouvent la facilité de creuser, de transporter, de faire le nettoyage, il peut manger avant même 12 heures.
Rendons-nous au sud Kivu. La Ligue des consommateurs des services au Congo, Kinshasa, Likoski, s'est dit satisfaite des décrets signés récemment par le Premier ministre congolais le 15 octobre en cours. Il s'agit des décrets suspendant la perception de la TVA, taxe sur la valeur ajoutée, sur les produits de première nécessité, ainsi que l'importation et la vente de certains biens dans les domaines de la cimenterie et de l'immobilier, et ce pour une période d'une année, ce qui représente une opportunité pour les consommateurs de vulgariser ces décrets pour application aux opérateurs économiques. Janvier Makombe Kabaré, président de la Likoski, nous en parle dans cet extrait choisi par Rachel Kiesse.
C'est avec un certain degré de satisfaction que nous venons d'apprendre la signature de deux décrets par le premier ministre du gouvernement congolais. Nous tous, nous sommes d'avis que le pays traverse des moments très difficiles présentement. Sur le plan économique et financier, les consommateurs ont du mal à nouer les deux bouts du mois. Et vous savez que les consommateurs, lorsqu'il y a une certaine crise sur le plan économique et financier, ils en paient les prix les plus lourds. Et à travers les deux arrêtés en question, nous pensons qu'il s'agit là d'une opportunité pour les consommateurs de vulgariser ces messages partout, mais aussi les opérateurs économiques. Et nous insistons surtout pour que les ministères des tutelles et les ministères des finances puissent veiller à la stricte application des dispositions de ces deux décrets du Premier ministre. Nous allons tous vraiment la main dans la main veiller pour que les retombées de ces deux mesures-là puissent avoir quand même un impact positif sur le vécu quotidien du peuple congolais.
Actualité Afrique Monde.
Tension au Tchad. Une trentaine de personnes, dont une dizaine de membres des forces de sécurité, ont été tuées ce jeudi selon les autorités. C'était lors des affrontements opposant police et manifestants. Des centaines de personnes se sont réunies à l'appel de l'opposition pour protester contre la prolongation pour 2 ans de la période de transition politique dirigée par Mahamat Idriss Déby. La première ministre britannique a annoncé sa démission ce jeudi. C'est au lendemain d'une journée catastrophique pour son gouvernement. Elle restera comme la première ministre la plus éphémère de l'histoire contemporaine, avec seulement 44 jours au pouvoir, disent des sources sur place. Sa situation était devenue intenable, car contestée au sein de son propre parti et décriée par l'opinion publique.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons Justin Bendesana, coordonnateur adjoint de la Coordination pour le changement de mentalité. Il appelle la population à s'approprier le programme de développement de 145 territoires en vue de réduire la pauvreté et surtout les disparités existantes entre les milieux urbains et ruraux. Il a lancé cet appel mardi à Kisangani lors d'une conférence qu'il a animée à ce sujet. Justin Bendesana s'entretient avec Jacques Moukonkolé.
Justin Bendesama, bonjour. Quel message avez-vous voulu communiquer aux participants à votre conférence?
Le message que j'ai voulu faire passer, c'était appeler la population tchopolaise à s'approprier de ces projets. Car ces programmes, c'est leur projet. Nous avons tant décrié la pauvreté dans notre pays. Et le chef de l'État a mis en place ce projet qui sera implémenté par le gouvernement et dont la mise en œuvre effective au travers les agences d'exécution. C'est pour réduire la pauvreté au niveau de nos entités territoriales. Car comme vous le savez, il y a beaucoup disparité entre d'un côté les milieux urbains et les milieux ruraux. Et donc, l'objectif étant d'impulser le développement à la base, nous voulons donc, par cette communication, appeler toute l'élite à mobiliser, à sensibiliser les communautés locales pour qu'elles s'approprient, qu'elles réservent un bon accueil auprès d'elles, qu'elles s'impliquent au niveau de la mise en œuvre, mais aussi et surtout assurer la durabilité des réseaux.
Concrètement, quel comportement attendez-vous de la population?
Le premier comportement que j'attends de la population, c'est les contrôles citoyens.
En quoi consiste ce contrôle?
Les contrôles citoyens consistent à veiller sur l'exécution des travaux de manière responsable pour dénoncer tous les abus. C'est à insister auprès de la population pour qu'elle ne contribue pas à voler les équipements, les matériaux, mais par contre, qu'ils soient là comme les gendarmes de leur projet pour veiller à son bon déroulement. Que le jeune de ces territoires prête main forte à ces agences d'exécution, qu'il suive l'évolution des travaux, qu'il adopte une attitude citoyenne pour protéger.
Fait que parler jusque-là, il n'y a que le verbe. À quand le début effectif des travaux sur le terrain?
Les travaux ont déjà débuté. Il y avait tout un processus. Il fallait que les ingénieurs puissent passer, prendre le mesurage à travers tous les territoires, parce que vous devez construire un hôpital et il faut identifier les sites. Vous devez réhabiliter l'hôpital, il faut identifier le site. Vous devez réhabiliter les routes de dessert agricoles, il faut les identifier avant que les travaux effectifs ne commencent. C'est déjà dans le processus de la mise en œuvre. Et à ce stade, sur les 3 agences, il y a le PNUD, la CFF et le BCECO. Eh bien, pour le 2, les activités ont déjà commencé et sur le terrain, mais aussi également pour le PNUD, les activités, le processus est en cours pour la mise en œuvre effective. Donc ce n'est plus en termes de simples verbes. À part ça, il y avait des appels d'offres qui devaient être faits pour recruter, n'est-ce pas, les agences locaux local qui allait exécuter ces projets. Tout ce processus de sélection en fait que, bon, apparemment, vous avez eu l'impression comme si les choses tardaient, mais les travaux ont effectivement commencé.
Et c'est pour combien de temps? Quelle est la durée, l'échéance pour l'exécution?
Je ne peux pas m'hasarder de donner un délai. Je ne suis pas agence d'exécution. Vous savez, le problème, la problématique de l'accessibilité dans nos territoires, c'est quand même un sérieux écueil. Mais ce qui est vrai, le travaux démarre, mais il faut que les citoyens ouvrent l'œil et le bon.
Est-ce que des dispositions ont été prises pour éviter des perturbations de la planification faite au départ?
À ce stade, la première phase va consister en la construction des infrastructures, c'est-à-dire les écoles, les hôpitaux, les bâtiments administratifs, les logements des staffs dirigeants au niveau du territoire. Donc on va step by step. Donc la première phase, c'est la construction des infrastructures socio-économiques de base. Donc il n'y aura pas, à mon sens, à moins de mauvaise foi, mais les assignations sont claires.
Qu'en est-il du suivi de l'exécution des travaux? Avez-vous pris des stratégies à ce niveau?
Il y a l'inspection générale de la finance qui va se mêler avec en collaboration avec le BTC pour essayer de suivre. Le BTC regarde, conseille l'IGF sur le plan technique, l'IGF regarde sur le plan financier.
Merci Monsieur Bendessama.
C'est moi qui vous remercie.
Le coordonnateur adjoint de la coordination pour le changement de mentalité répondait aux questions de Jacques Moukonkolé. C'est la fin de ce journal supervisé par Alain Rongmouchinj, coordination de Richard Junior Kamunga. Merci de rester des nôtres.